Chapitre 16. Ainsi est le blouf, le mal qui mange. Insatiable est son appétit, incommensurable est sa force, implacable est sa volonté. Il n'est ni divin, ni diabolique, ni créateur, ni créature, ni humain, ni inhumain. Il n'est rien d'autre que celui qui est l'envers, qui est le noir ou est le blanc, qui est l'obscurité ou est la lumière, qui est la mort ou est la vie, qui est le vide ou est la matière. Il dévore l'être qui renonce à son principe unique, qui renie son essence, il en fait un non-reflet de lui-même. Ainsi est le blouf, tapis dans les ténèbres de nos insuffisances, guettant nos faux pas, insufflant le rien dans nos têtes et dans nos cœurs. Il lui suffit de n'être pas pour que l'être soit en danger. Il s'infiltre dans les haines et dans les peurs. Il se rue dans les moindres failles. Il est le prédateur vigilant et inlassable des non-désirs, du non-amour, de la non-chaleur. Ainsi est le blouf, enfoui dans les pensées et les paroles, dissimulé dans la bouche des faux prophètes et des prêtres à l'âme noire, caché dans les rêves des tyrans. Il infiltre la mort pour semer le néant. Il se glisse dans l'épée du soldat, dans les mains de l'étrangleur, dans le sexe tranchant du violeur, dans le ventre de la mère qui tue son enfant, dans la folie de l'homme qui violente la femme, dans l'orgueil du père qui déshérite son fils. Ainsi est le blouf qui obscurcit le chemin du temple intérieur, qui coupe l'humain de ses racines, qui efface sa mémoire, qui tarit sa source, qui dérobe ses pouvoirs, qui éteint sa lumière. Où que l'homme aille, il le suit, il l'entoure, il l'étouffe, il l'assiège. Que l'homme devienne un soleil, un être source, et il battra en retraite, vaincu par la lumière. Ainsi est le blouf. Yael M. Atzkin.
Yael ?
Le crépitement de la pluie absorba le cri de Tixou. Yael avait disparu depuis 3 jours. Lorsqu'ils étaient redescendus de la montagne, Afikit et Tixou ne l'avaient pas retrouvée devant le buisson du fou, où elle avait coutume de s'asseoir pendant qu'ils s'abîmaient dans le silence, qu'ils cherchaient inlassablement des pistes qui les ramèneraient à Chari. Elle était pourtant habituée à la solitude, se débrouillait pour manger, se laver, se déshabiller et se coucher lorsqu'ils arrivaient en retard. Le reste du temps, elle restait obstinément assise ou agenouillée à côté du massif épineux aux fleurs lumineuses.
Yael ?
La pluie violente qui tombait sans discontinuer depuis 3 jours ne facilitait guère les recherches. Un épais manteau de nuages noirs, poussé par un vent rageur, recouvrait le ciel et les pics enneigés. Des rigoles tumultueuses dévalaient les pentes abruptes des contreforts rocheux. Les branches des arbres et les lanières souples des buissons leur cinglaient le visage, le cou et les mains. Trempés de la tête aux pieds, couverts de boue, ils battaient inlassablement le massif des Imlias. Afikit se reprochait amèrement d'avoir négligé sa fille. Yael s'était renfrognée ces derniers temps. Elle ne s'exprimait que rarement avec les mots. Mais ses émotions, ses sentiments, se devinaient sur son visage et dans ses yeux. Et sa mère avait remarqué qu'elle traversait une phase difficile. S'était-elle enfuie pour dire à ses parents qu'ils ne prenaient pas suffisamment garde à elle ? Elle n'était encore qu'une enfant de 7 ans, un être qui, en dépit de son apparente maturité, requérait leur présence, leur chaleur, leur tendresse, leur attention. Elle ouvrait la bouche surtout pour évoquer le blouf. Le mal qui mange.
Le blouf gagne du terrain. Des millions d'étoiles ont disparu cette nuit. L'univers se rétrécit. Le blouf essaie de nous manger.
Elle en parlait comme d'une entité palpable, de la même manière que les enfants parlent des monstres, des sorcières, des fées ou des lutins qui hantent leur monde. Il lui arrivait parfois de se relever la nuit, d'entrer discrètement dans la chambre de ses parents et de se glisser dans leur lit comme si un rêve effrayant l'avait brutalement tiré du sommeil. Ce n'était pas ses mouvements furtifs, discrets, qui les réveillaient, mais le froid glacial de sa peau.
« J'ai peur. Il y a de moins en moins de lumière, »
murmurait-elle d'une voix ensommeillée et tremblante. Sa disparition soudaine leur faisait prendre conscience de la place qu'elle occupait dans leur vie, du vide énorme que générait son absence. Parce qu'elle ne réclamait jamais leur affection, ils avaient jugé qu'elle allait bien, qu'elle n'avait pas besoin d'eux.
« Yel !»
Ils se rendaient maintenant compte qu'ils avaient commis une erreur. Ils avaient été tellement absorbés par leur quête qu'ils s'étaient empressés d'interpréter ces silences comme un signe d'autonomie, comme un consentement muet. 3 jours et 3 nuits qu'ils ne dormaient pas, qu'ils fendaient l'épais rideau de pluie, qu'ils affrontaient une montagne subitement hostile, sournoise, dangereuse, qu'ils pataugeaient dans la boue, qu'ils écartaient les branches des buissons et des arbustes, qu'ils exploraient les grottes, les failles, les surplombs, les rochers, les forêts, les taillis. Tourmentés par les remords inquiets, ils n'avaient pas remis les pieds dans leur maison. Conscients que leurs investigations n'avaient que très peu de chances d'aboutir, ils s'acharnaient autant pour se donner l'impression d'agir que pour éviter de se morfondre au village, dont la plupart des habitations, qui avaient souffert de la rudesse de l'hiver, tombaient maintenant en ruine.
« Yel !»
Depuis le départ des derniers pèlerins, la situation n'avait pas évolué. Chari ne s'était toujours pas manifesté, comme s'il s'était définitivement perdu dans les couloirs du silence. Et l'antra n'avait pas ouvert de nouvelles voies. Tout paraissait suspendu, figé, bouché. Selon les propres mots de Yel, l'univers se refermait sur lui-même, comme aspiré par le blouf. Le blouf. Le blouf était peut-être responsable de la disparition de leur fille.
« Yel !»
Le blouf, le mal qui mange, l'avait peut-être dévoré. Elle seule le connaissait, elle seule le percevait, et il avait peut-être décidé de l'éliminer. Le cœur d'Afikit se serra et des larmes jaillirent de ses yeux, se mêlant aux gouttes de pluie qui lui giflaient le front et les joues. Pourquoi n'avait-il pas pris au sérieux les déclarations de Yel ? Ils avaient réagi comme tous ses parents qui prêtent une oreille distraite ou condescendante au langage naïf et imagé de leur enfant, comme tous ces adultes qui ne croient que leur propre importance. Le blouf n'était pas seulement une expression puérile, un monstre enfanté par l'esprit de Yel, mais une réalité, aussi concrète et terrifiante que l'hyponéros. Une réalité qu'elle avait tenté de leur expliquer en se faufilant dans leur lit et en frottant sur leurs jambes le froid de sa peur et de sa peau.
« Yel !»
Comme sa peur et sa peau leur manquaient à présent. Pourquoi n'avaient-ils pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour préserver la bulle de tendresse dans laquelle elle se mouvait ? Pourquoi ne lui avaient-ils pas murmuré à chaque seconde qu'il l'aimait, qu'elle était la chair de leur chair, les yeux de leurs yeux, la vie de leur vie? Pourquoi n'avaient-ils pas partagé ses repas, ses jeux, ses joies, ses peines? Muni d'un bâton, Tixou fouillait les buissons, débusquait de temps à autre des animaux apeurés, poules sauvages, serpents, mangoustes, tatous. Parfois, les mouvements convulsifs des feuilles et des branches soulevaient un fol espoir de voir apparaître la chevelure dorée et le visage mutin de la fillette. Mais une gazelle démon détalait devant eux, martelait le sol détrempé, s'évanouissait dans la pluie. Et l'inquiétude revenait chaque fois plus virulente, plus oppressante. Ils débouchèrent sur un immense plateau, fermé d'un côté par une haute muraille, bordé de l'autre par un gigantesque cirque hérissé de pointes effilées. Le jour, lassé par la tourmente, déclinait rapidement. Des cascades surgies de nulle part se fracassaient sur le sol, où elles éclataient en myriades de ruisseaux qui serpentaient vers les bords de l'abîme où gonflaient les mares stagnantes sur les méplats.
Le vent se fit de plus en plus irascible, et de puissants tourbillons balayèrent le plateau sur toute sa largeur. Tixou agrippa la branche basse d'un sapin nain.
« Il faut nous mettre à l'abri !»
Il avait été obligé de hurler pour couvrir les mugissements du vent et le crépitement de la pluie. Sa barbe se hérissait et ses cheveux, bien que détrempés, ondulaient comme des serpents ivres de fureur.
« Pas question !»
cria Afikit accroupi au pied d'un gros rocher. La flamme dorée de sa chevelure dansait autour de sa tête. Sa veste de laine imbibée pesait des tonnes. L'eau s'insinuait sous sa tunique et son pantalon, furetait dans son dos, s'infiltrait entre ses seins, sur son ventre, entre ses cuisses.
« Nous devons continuer, continuer !»« Au moins le temps que la tempête se calme !»
La mort dans l'âme, frigorifié, démoralisé, épuisé, Afikit acquiesça d'un bref mouvement de tête. Tixou avait raison. Ce n'était pas de s'exposer inutilement aux éléments hostiles qui feraient revenir Yel. Cela équivaudrait seulement à s'infliger un châtiment qui ne chasserait ni l'anxiété ni les regrets.
« Attends-moi ici !»
Tixou s'avança prudemment le long de la muraille rocheuse, à la recherche de n'importe quelle excavation, même peu profonde, qui les isolerait provisoirement de la tourmente. Les bourrasques le projetaient sur la roche et il devait s'arc-bouter sur ses jambes, s'accrocher de toutes ses forces aux aspérités pour ne pas être emporté comme une feuille. Une cinquantaine de mètres plus loin, il découvrit une faille, dissimulée derrière un repli de la muraille. Malgré son étroitesse, il parvint à s'y glisser et se retrouva dans une veine dont les parois et la voûte allaient en s'élargissant. La lumière déclinante ne pénétrait que parcimonieusement à l'intérieur de l'abri, mais suffisamment pour qu'il puisse distinguer une paillasse rudimentaire, des couvertures pliées, une table basse et quelques ustensiles de cuisine. Elle n'avait visiblement pas été habitée depuis longtemps, mais il n'y régnait pas l'odeur de renfermé ou de moisissure caractéristique des demeures laissées à l'abandon. Elle semblait seulement être hors du temps, en veilleuse, en attente, un peu comme ces princesses endormies des légendes orangiennes. Tixou retourna chercher Afikit, qui s'écorcha la joue sur une arête saillante. Des coups de tonnerre ébranlèrent la montagne, des éclairs bleutés, nerfs à vif d'un ciel courroucé, jetèrent leur lueur livide sur le plateau. Tixou dénicha sous la table basse de la grotte un antique autolume, une sphère transparente à énergie magnétique qui servait à la fois d'éclairage et de chauffage. Il en pressa le bouton d'allumage, et les filaments intérieurs et torsadés du petit appareil chatoyèrent, s'emplirent peu à peu d'un éclat jaune-orangé. La lumière ambrée qui se diffusa de la petite bulle se transforma peu à peu en douce chaleur. Ils se déshabillèrent entièrement, étalèrent leurs vêtements sur la table basse ou directement sur le sol, et déplièrent des couvertures dans lesquelles ils s'enroulèrent. Les rayons diffus et vacillants de l'autolume sculptaient le visage creusé et anxieux d'Afikit, assise sur la paillasse. Tixou se rapprocha d'elle, la tira contre lui et lécha le sang qui avait coulé de la plaie superficielle de sa joue.
« Yel, » gémit-elle en laissant couler des larmes.
« Nous la retrouverons, » affirma Tixou.
Dans cette grotte coulait un puissant fleuve de paix qui emportait son angoisse et son chagrin comme des alluvions de l'âme. Il se sentait serein, relié à lui-même, rétabli dans son être. Il avait éprouvé le même genre de quiétude dans la forêt profonde de deux saisons, dans la maison de Stanislav Nolustrist, le berger de Markina, ou sur l'île des montagnes de Selpdik, dans tous ces endroits baignés de mystère et de magie où l'avaient porté ses pas.
Où est-elle? Que fait-elle? Pourquoi s'est-elle enfuie?
Soupira Afikit. Peut-être est-elle partie rejoindre Chari.
Peut-être aussi qu'elle a été mangée par le blouf.
Elle éclata en sanglots, et ses larmes tracèrent des sillons tièdes sur le torse de Tixou. Il lui caressa tendrement le front et les joues.
« Le blouf n'est qu'une expression, un symbole, On ne peut pas être mangé par les symboles.
Je ne sais pas. Je ne sais plus. Elle en parle comme d'un être vivant, comme d'un monstre féroce.
Nous ne comprenons pas toujours ce qu'elle veut dire, parce que nous ne prenons pas le temps de l'écouter, de nous intéresser à elle. Nous passons à côté de notre fille Tixou, à côté de l'essentiel. Dieu sait si je l'aime, mais j'ai parfois l'impression qu'elle vient d'un autre univers. Elle parle un autre langage. Elle voit et entend des choses que nous ne voyons et n'entendons pas. C'est aussi une petite fille qui est sortie de mon ventre, une enfant qui chaque jour voit mourir des millions d'étoiles a encore plus besoin d'être rassurée qu'un enfant ordinaire.
Le fracas du tonnerre faisait trembler la roche et les éclairs se faufilaient de temps à autre dans la grotte comme des voleurs blêmes et furtifs.
Afikit et Tixou observèrent un long moment de silence, puis ils ressentirent simultanément l'envie pressante de se toucher, de se caresser, de s'embrasser. Une irrésistible impulsion les poussait l'un vers l'autre, une supplique venue du fond de l'âme, une sommation de leur corps. Ils firent l'amour sur les couvertures étalées, avec une lenteur suave et désespérée. Ils pressentaient que c'était la dernière fois qu'ils s'épousaient, qu'ils s'exploraient. Leur peau, leur sueur, leurs lèvres, leurs mains leur racontaient déjà la douleur de la séparation, la malédiction de l'absence.
Afikit s'ouvrit à lui comme elle ne s'était jamais ouverte, comme si elle voulait l'absorber tout entier et le retenir dans son ventre.
Tixou s'immergea corps et âme dans les yeux bleus, verts et or d'Afikit, butina sa bouche jusqu'à l'ivresse, lui mordit les lèvres jusqu'au sang, escalada les collines de ses seins jusqu'au vertige, fendit sa chair tendre et moite jusqu'à ce qu'elle le supplie de mourir en elle.
Terrassée par la fatigue et la détresse qui, après l'éblouissement des sens, était revenue la visiter, enroulée dans une couverture, Afikit s'était endormie sur la paillasse. Assis à ses côtés, Tixou la contempla pendant plus de 2 heures. Elle était d'une beauté surnaturelle dans l'abandon du sommeil. Dehors, la tempête faisait rage. Les coups de cymbales du tonnerre, le crépitement sourd de la pluie et les hurlements du vent composaient une symphonie majestueuse, grandiose. Les feux agonisants de l'autolume, dont la réserve d'énergie était pratiquement épuisée, capitulaient devant les ténèbres. Tixou enveloppa Afikit d'un regard lourd de regret, et un goût amer de désespoir lui envahit la gorge. Aurait-il un jour la possibilité de la remercier de tout le bonheur qu'elle lui avait donné? Leurs 16 années de vie commune avaient été un enchantement de tous les instants, une suspension du temps, une parenthèse de vie dans un univers en extinction. Il résista tant bien que mal à la tentation de la réveiller, de la presser sur sa poitrine et de la couvrir de mots tendres et de baisers. Il ferma les yeux et invoqua l'antra. La vibration de vie le remorqua jusqu'à la citadelle du silence, jusqu'à la nef intérieure d'où partaient toutes les routes, passées, présentes, futures. Contrairement à ce qui s'était produit ces 7 dernières années, où aucune route particulière ne l'avait attiré et où il avait dû en parcourir des milliers pour s'apercevoir qu'elle ne menait nulle part, une bouche obscure le héla. Il la franchit et s'engagea sur un étroit sentier tortueux, bordé de failles insondables. Un froid intense, intolérable, le transperça, le déchira. Mais, malgré l'indicible souffrance qui se diffusait dans chacune des parcelles de son être, il refusa de rebrousser chemin. À l'extrémité du sentier se dressait une créature gigantesque, monstrueuse, constituée pour moitié de vide et pour moitié de matière. Elle possédait une carapace extérieure sombre et apparemment velue, 12 longs tentacules disposés en étoiles, de nombreux orifices d'un noir tellement intense, tellement dense, qu'ils en apparaissaient presque brillants.
Le reste de son grand corps se diluait ou se constituait dans le vide, comme si elle ne se décidait pas tout à fait à basculer dans le monde des ondes et des formes. Le cœur de Tixou se glaça, mais il prit conscience que l'heure avait sonné de l'affronter, de franchir le seuil du monde terrifiant dont elle était la gardienne. Il comprit que Yel, sa chère petite Yel, l'avait préparée de tout temps à cette rencontre. Avec son langage d'enfant, elle lui avait désigné l'adversaire ultime, le monstre à la laine glaciale tapi de l'autre côté de la porte. Elle avait disparu pour contraindre son père à se réfugier dans le cœur des Imlias, à entrer dans cette grotte où avait jadis vécu le fou des montagnes, à renouer avec son destin. Le temps était venu d'aller défier le Blouf sur son propre terrain, de porter le fer de l'humanité et de la création dans l'Hyponéros, de transpercer le cœur du Brouhaher, le nom que Stanislav Nolustrist, le berger du Markina, avait donné aux démons du néant. Les paroles de Kacho Marum, Lima Sadumba de deux saisons, s'élevèrent dans la nef de son silence intérieur. Si tu n'accomplis pas ton destin, aucun être à deux jambes ne méritera bientôt de garder le cadeau de la vie. Si Tixou Oti l'Orangien était devenu Sri Lumpa, le seigneur lézard, ce n'était pas pour le vain plaisir de porter un titre flatteur, mais parce qu'il avait été choisi pour occuper la pointe de l'armée des hommes contre l'ennemi le plus implacable, le plus terrifiant que l'humanité ait jamais eu à combattre. Il s'était hâté de déléguer cette responsabilité à Chari pour jouir sans entrave de l'amour d'Afikit, et ce renoncement avait probablement placé son fils adoptif en situation d'échec, de la même manière qu'il avait entraîné la désertion des pèlerins. « Chère petite Yel, chair de ma chair, yeux de mes yeux, vie de ma vie, tu peux dormir tranquille à présent. Pour toi, j'affronterai le Blouf, le mal qui mange. Pour toi, je ressusciterai ces millions d'étoiles disparues. Pour toi, je disperserai mon humanité au vent du néant. Chère petite Yel, t'ai-je déjà raconté le Tixou d'autrefois? T'ai-je déjà parlé de ce petit employé de la compagnie intergalactique de long transfert, un homme noyé dans l'humidité de deux saisons, dans l'alcool et dans ses peurs, un homme déjà grignoté par le Blouf? Un pauvre mortel qui ne t'avait pas encore engendré, pas encore rencontré. Chère petite Yel, t'ai-je déjà dit que tu étais ma réalisation la plus accomplie, ma fierté, mon chef-d'œuvre? Tixou? Il ouvrit les yeux, la lumière du jour entrait à flots dans la grotte, saupoudrait d'or clair les parois et le sol rugueux, la table basse, les ustensiles de cuisine, les couvertures. Afikit, dressé sur un coude, le dévisageait avec ardeur. Des cernes profonds soulignaient ses merveilleux yeux perses. Tu as prononcé le mot Blouf, et tu as à la fois ri et pleuré. Il s'aperçut qu'il avait encore envie de rire et de pleurer. Rire parce que la voix émergée du sommeil le mettait en joie. Pleurer parce qu'il était sur le point de la quitter, elle qui était son soleil, sa chaleur, sa lumière. Elle dont la beauté, la douceur et la grâce étaient d'incomparables présents des dieux.
« Yel !»
cria-t-elle comme si elle se remémorait brusquement la disparition de sa fille. Elle repoussa sa couverture et se leva précipitamment.
« Inutile de nous affoler !» murmura Tixou, qui laissa errer un regard admiratif, ému, douloureux sur le corps de sa femme.
« Elle nous attend au village, près du buisson du fou, comme d'habitude. » Afikit sut intuitivement qu'il disait la vérité. Rassérénée mais impatiente de serrer sa fille dans ses bras, elle déposa un baiser sur les lèvres de Tixou.
« T'ai-je dit combien je t'aimais ?» fredonna-t-elle en enfilant son pantalon.
Tixou regretta qu'elle se dérobât aussi rapidement à son regard, mais la maîtresse de la nuit s'effaçait devant la mer
et il ne l'en aima que davantage. Main dans la main, ils reprirent le chemin du village. Le bleu du ciel était pâle, comme délavé par les pluies de ces trois derniers jours. Les grands aïeuls planaient entre les pics enneigés. Des bruissements, des craquements, des grognements, des sifflements s'élevaient des arbres encore courbés, des taillis emmêlés, des herbes ployées. Une belle journée de printemps s'annonçait. Yel était assise près du buisson aux fleurs lumineuses. Contrairement à ses habitudes, elle se redressa en apercevant dans la lumière radieuse du matin les silhouettes de ses parents qui dévalaient la pente d'une colline. Elle traversa la rue principale du village en courant. La tempête avait achevé l'entreprise de démolition entamée par le gel. Des habitations construites par les pèlerins, il ne restait rien d'autre que des pans de murs à demi éventrés. Seule avait résisté la maison de Nayafikit et de Srilumpa, dont Tixou avait eu la bonne idée de consolider la toiture et de calfeutrer les ouvertures avant l'arrivée de l'hiver.
« Yel !»
Afikit se précipita vers sa fille, la souleva de terre et, entre rires et larmes, la pressa sur sa poitrine à l'étouffer.
« Yel, où étais-tu ? J'ai eu tellement peur, tellement peur !»
Par-dessus l'épaule de sa mère, Yel regardait fixement son père, légèrement en retrait. Les yeux gris-bleus de la fillette paraissaient immenses dans son visage amaigri par les privations. Des traînées de boue, des brindilles, et des feuilles maculaient sa chevelure et ses vêtements.
« Est-ce que tu vas partir dans le pays du Blouf, papa ?»
Tixou hocha lentement la tête.
« Jamais plus je ne pleurerai, » reprit Yel. « J'ai pleuré les larmes de toute ma vie en 3 jours et le ciel a pleuré avec moi. Nous avions un gros chagrin de ton départ, mais c'est ainsi que doivent s'accomplir les choses. Hier soir encore, des millions d'étoiles ont disparu. »
Afikit reposa sa fille sur l'herbe, s'accroupit face à elle, scruta ses traits hâves et ses grands yeux clairs, purs, aussi profonds et lumineux que les lacs des Himalayas.
« De quoi parles-tu, Yel ?»
Ce fut Tixou qui répondit. « Les humanités ne peuvent plus attendre. Je pars pour un endroit dont je ne suis pas sûr de revenir. Je défendrai l'humanité auprès du Blouf, de l'Hyponeros. Chari viendra m'aider.
« Il ne t'aidera pas !»
dit Yael d'une voix tranchante.
« Il t'aime pour toujours, mais il te combattra !»«
Pourquoi lutterait-il contre moi ? C'est un humain comme moi, comme nous. C'est notre fils adoptif, ton grand frère.
Mais toi, papa, resteras-tu toujours un humain, comme lui, comme nous ?»
Après avoir prononcé ces terribles paroles, Yael s'approcha de son père et posa délicatement la tête sur son ventre. Ce geste de tendresse, exceptionnel chez elle, bouleversa Afikit. Davantage que les mots, il lui faisait prendre conscience de la réalité et de l'imminence du départ de Tixou. L'homme qu'elle avait jadis méprisé dans l'agence de 2 saisons, l'homme qui n'avait pas hésité à braver le robot limier de la CILT pour se lancer à sa recherche, l'homme qui l'avait tiré des griffes des trafiquants de points rouges, l'homme qui l'avait sauvé des skaïtes d'Hyponeros sur Selbdik, l'homme qu'elle avait haï, découvert et aimé sur l'île des Monagres, l'homme qui avait fait d'elle une maîtresse et une mère comblée, Tixou, son aimé, lui était retiré. Sa peau, ses lèvres et son ventre l'avaient pourtant prévenu dans la grotte, mais l'anxiété et la fatigue et la fulgurance du plaisir s'était conjuguée pour éloigner le spectre de la séparation. C'était son âme qu'on lui arrachait. Elle n'avait ni l'envie ni la force de pleurer. Comme Yel, elle avait vidé son réservoir de larmes durant ces 3 jours et, de toute façon, les larmes étaient des gouttes bien dérisoires en regard de l'océan de souffrance dans lequel elle se noyait. Elle ne tenta pourtant pas de le dissuader de partir. Parce que, selon l'expression de Yel, c'était ainsi que les choses devaient s'accomplir. Les pèlerins l'avaient appelée Nayafikit, la mère universelle, et elle ne s'estimait pas le droit de priver les humanités de leur dernière chance. La guerre totale qui opposait les hommes au Blouf, à l'Hyponeros,
balayaient les destins individuels comme les feuilles soufflées par les grands vents de l'automne.
« Quand comptes-tu partir ? » demanda-t-elle d'une voix blanche.
« Maintenant. » Elle puisa dans ce qui lui restait d'énergie pour ne pas défaillir. Comme elle regrettait de s'être endormie dans la grotte, de ne pas l'avoir veillée toute la nuit, de s'être rhabillée à la hâte, de ne pas l'avoir sollicitée pour une ultime étreinte, de ne pas avoir suspendu le temps.
« Reste un jour, une heure, une minute. »
« Papa ne peut pas rester, » intervint Yel. « Moins il y aura d'étoiles et plus ce sera difficile de vaincre le Blouf. »
Afikit acquiesça d'un mouvement de tête, puis elle glissa les bras autour de la taille de Tixou, enfouit la tête au creux de son épaule et s'imprégna de sa tiédeur, de son odeur.
« T'ai-je dit que je t'aimais ? » fit-elle dans un souffle. « Dis-le-moi encore. Je t'aime. »
Il la repoussa avec une extrême douceur.
« Nous nous retrouverons bientôt. N'oublie pas, je suis tien pour l'éternité. Prends soin de notre petite merveille. »
Il embrassa longuement sa fille.
« Si le Blouf te mange, papa, pense à moi et il te recrachera. Il a plus peur de moi que je n'ai peur de lui. »
Il lui sourit, lui ébouriffa les cheveux et prit le chemin de la haute montagne. Elles virent disparaître sa silhouette dans les ors rutilants du soleil. Il ne se retourna pas une seule fois.
« Il va me manquer, » soupira Yel. « Il me manque déjà, » murmura Afikit.
« Nous aurons bientôt de la visite, de nouveaux pèlerins, si le Blouf ne les a pas mangés avant. »
Elles ne mirent pas longtemps à combler leur réservoir de larmes, et elles pleurèrent toutes les deux en début d'après-midi. Incapable de rester en place, Yel sortit de la maison sans avoir touché au repas. Elle ne se rendit pas près du buisson du fou, mais munie d'un des bâtons de son père, comme ça elle avait l'impression de tenir un morceau de lui et d'empêcher le Blouf de le manger tout entier. Elle alla se promener dans la montagne. Il faisait tellement bon qu'elle retira ses vêtements et se baigna dans un torrent dont l'eau glacée lui arracha des gloussements. Elle se laissa un moment emporter par le courant, assez violent en raison de la fonte des neiges, puis, jugeant qu'elle s'était trop éloignée de ses vêtements et de son bâton, elle s'accrocha à la branche basse d'un saule et se hissa sur la berge opposée. Elle s'allongea sur un rocher et s'abandonna à la tiédeur émolliante du soleil. Au moment où elle bougeait la tête, un éclat de lumière lui frappa le coin de l'œil. Elle se redressa, sauta de son rocher et écarta les ramilles basses du buisson d'où provenait le scintillement. Elle aperçut une boîte en fer, d'une longueur de 30 cm sur une hauteur de 15. Son enveloppe métallique était noire par endroits, comme si on l'avait laissée tomber dans des braises vives, mais elle ne présentait aucune trace de rouille et d'usure caractéristique des étranges objets préhistoriques que Yel avait exhumés et amenés à ses parents.
« Ne touche pas à ces choses-là !» avait grondé Tixou. Avant de quitter ce monde, les hommes l'avaient truffé de charges explosives, de mines à résonance magnétique.
« Il y a plus de 1000 ans !» avait argumenté la fillette. « Elle ne risque plus d'exploser maintenant.
Les hommes ont consacré beaucoup d'énergie et d'intelligence à inventer des moyens de s'entretuer. Leurs armes sont peut-être capables de détruire des milliers d'années après leur départ. »
Yel se demanda ce que papa aurait dit de cet objet-ci. Il n'était ni rouillé, ni ancien, mais tapi dans le buisson comme un animal malfaisant. Il semblait aussi dangereux qu'une mine préhistorique. Elle tendit les bras pour s'en saisir, mais au dernier moment quelque chose, une intuition, une peur, l'en dissuada. De toute façon, elle ne serait pas parvenue à l'ouvrir. Il était hermétiquement fermé par une serrure à code. Un minuscule clavier enclavé dans la large poignée et pourvu d'une 20aine de touches. De même, il n'était guère envisageable de le fracturer avec une grosse pierre. Son métal rappelait à Yel le matériau de la coque du vaisseau antique qu'elle avait découvert non loin d'un grand volcan au versant et au cratère calciné. Plus elle fixait cette boîte, et plus s'ancrait en elle la certitude qu'elle n'était pas arrivée dans cet endroit par hasard. Elle semblait avoir été placée là à l'intention de quelqu'un. Mais qui ? Il n'y avait personne d'autre que maman et elle sur ce monde. Une brise se leva qui couvrit son corps de frissons. Il fallait qu'elle traverse à nouveau le torrent pour récupérer ses vêtements. Le disque rougeoyant du soleil s'abîmait à l'horizon et décochait des flèches écarlates sur la plaine céleste assombrie. Le crépuscule empourprait les reliefs, et elle devait à présent retourner à la maison pour s'occuper de maman, effondrée par le départ de papa. Yael était habituée à dormir seule, mais pas à Fikit, et c'est probablement au cours de la nuit qu'elle ressentirait tout le poids de l'absence de Tixou. La fillette se promit de parler de la boîte en fer à sa mère. Elle eut du mal à pénétrer dans l'eau froide. Le courant la happa et la projeta quelques centaines de mètres plus loin sur un gros rocher à fleur d'eau. Étourdie, suffoquant et égratignée, elle parvint à prendre pied sur la rive, puis fut obligée de parcourir un bon kilomètre pour rejoindre le petit tas de ses vêtements. La nuit était tombée lorsqu'elle regagna la maison. Afikit ne l'entendit même pas rentrer. Ce n'est que lorsque sa fille passa la tête dans l'entrebâillement de la porte de la chambre qu'elle prit conscience de sa présence.
« Où étais-tu passée ? Tu as encore beaucoup de peine, maman ?»
Afikit ne répondit pas, mais fit signe à Yael de venir s'allonger près d'elle. Elles restèrent enlacées pendant plus d'une heure, jusqu'à ce que Yael, n'y tenant plus, déclare
« J'ai faim, maman !»
Afikit leva sur la fillette des yeux rougis par le chagrin. Tixou avait raison. Yael était leur petite merveille, et elle devait prendre soin d'elle.
« Viens, je vais te préparer le meilleur repas que tu aies jamais mangé. »
Main dans la main, elles se rendirent dans la pièce qui faisait office de cuisine et de salle à manger. La boîte en fer sortit complètement de la tête de Yael.